me demander de prêcher sur la multiplication des pains dans l'Évangile, je l'ai senti un peu comme une sorte de piège qui m'est tendu. Parce que, en fait, depuis quand même un certain temps que je m'exprime librement, et j'en rends grâce, dans cette Église, beaucoup savent que, dans le fond, cette histoire de pain multiplié, je n'en crois pas un mot. C'est-à-dire que je n'y crois pas. En effet, pour moi, on ne peut pas créer de la matière. Einstein a dit E égale MC2, donc pour créer je ne sais pas combien de milliers de pains, il faut une énergie qui est absolument inimaginable. Enfin, bref, je crois que ça n'est pas possible. Et donc, du coup, la prédication risque de tourner court. Voilà une histoire, je n'y crois pas, et puis c'est tout, on va s'arrêter là, et la prédication va simplement être finalement assez simple. Alors encore que, bon, oui, effectivement, certains s'en sortent en disant « Ah, bah, si, si, on peut le comprendre comme une sorte de grand partage. » Voilà, on l'entend parfois prêcher ainsi dans nos églises, protestantes ou catholiques. En effet, on voit très bien ce qui se passe. Jésus, les gens ont faim, probablement que chacun avait des provisions dans sa poche, dans sa besace, dans son sac. Et Jésus dit « Qui veut partager avec les autres? Qui a quelque chose à donner ?» Je pense qu'à mon avis, beaucoup en avaient, mais très peu l'ont dit. Alors bon, il y en a quand même cinq gentils qui ont dit « Ben voilà, moi je veux bien partager, j'ai un pain. » Et puis il y en a deux qui ont dit « Moi j'ai un poisson. » Bon. Alors Jésus n'est pas dupe, mais il dit « Bon, bah, écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. » Et donc, eh ben, on va partager ça. Donc il rend grâce pour ses pains, pour ses poissons, et puis il commence à les faire partager, à les faire circuler. Et à ce moment-là, devant cet exemple, je dirais, je pense que les autres ont dit « Ah ben, d'abord, bah, écoutez, je vous en prie, vous avez peut-être plus faim que moi. » Puis certains ont dit « Ah ben tiens, mais ah, ben, justement, moi aussi j'avais un pain, bah, j'avais oublié, tiens, voilà. » Et puis petit à petit, je dirais, lancé dans cette espèce d'ambiance de partage, de fraternité, chacun a sorti qui le pain, le poisson qu'il avait sans doute oublié dans sa poche ou dans sa besace, et on se rend compte que finalement, eh bien, si vraiment on partage ce que l'on a, il y a largement assez pour tout le monde. Le tout, c'est qu'il y en ait certains qui initient le mouvement. Et donc on peut dire, effectivement, et c'est parfois lu comme ça, que il y a là, dans ce texte, l'image de, je dirais, du partage, d'un partage réel et de finalement de l'importance de ceux qui vont montrer l'exemple. Bon, ça c'est assez beau finalement, mais je dois vous dire que ça ne me satisfait qu'à moitié. Ça ne me satisfait qu'à moitié parce que même si le partage est important, je ne crois pas que la Bible soit une sorte de recueil de fables, édifiante, essayant d'illustrer des qualités morales que l'on devrait avoir. Et il y a quelque chose qui me gêne, si vous voulez, dans cette lecture. Et aussi, je ne voudrais pas m'en arrêter là. Et l'autre chose qui me gêne, c'est que là, il est question de pain partagé. Mais en même temps, je suis très profondément convaincu que le pain matériel n'est pas l'essentiel. Parce que l'essentiel, comme le dit le petit prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et l'essentiel, ce n'est pas de se goinfrer ou d'avoir faim. L'essentiel, c'est autre chose. L'essentiel, c'est quelque chose de plus important, d'invisible. C'est le spirituel, peut-être. Et d'ailleurs, Paul le dit lui-même dans cette belle lettre aux Corinthiens, effectivement aussi souvent lue dans les mariages, mais dont on ne tire en général rien, si ce n'est que c'est très beau que les garçons et les filles s'aiment. Bon. Mais ce que dit Paul dans cette lettre aux Corinthiens, c'est qu'il dit, vous savez, tout passera, tout passera. Rien n'est éternel matériellement sur cette terre. Et même les diamants disparaîtront, et même les cathédrales disparaîtront. Et ici, tout passera, même la connaissance, elle sera abolie, dit-il. Et Paul dit, il n'y a que trois choses essentielles, fondamentales, éternelles. C'est la foi, c'est l'espérance et c'est l'amour. Et il dit, c'est ça qui est essentiel et fondamental. Et c'est ça, les trois choses que nous devons, de tout notre cœur, désirer avoir dans notre vie. Et celui qui a la foi, l'espérance et l'amour, qu'il ait du pain ou qu'il n'en ait pas, cela n'a plus aucune importance. Et la foi, l'espérance et l'amour, C'est important, oui, parce que la foi, c'est, en deux mots, hein, je ne veux pas trop développer, mais la foi, c'est pas forcément le sentiment religieux. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'entend, l'émotion religieuse, etc. Mais dans la Bible, la foi, c'est la conviction. La foi, c'est l'adhésion de l'intelligence à une vérité. La foi, c'est de dire oui, je sais en quoi je crois, je sais ce qui est vrai, ce qui est important, fondamental, essentiel pour vivre. Et je crois qu'effectivement, pour que notre vie fonctionne bien, ce dont nous avons besoin, c'est de foi, c'est-à-dire d'un idéal, d'une visée, d'une conviction, de quelque chose sur lequel on puisse construire sa vie, quelque chose de solide, comme un roc sur lequel on puisse construire. Alors ma foi à moi, c'est la foi que j'essaye de construire sur l'évangile du Christ, mais je dirais peu importe que l'on soit protestant, catholique, juif, chrétien ou je ne sais quoi, mais ce qui est important c'est d'avoir une foi solide, une foi constructive, une foi vivante et de travailler cette foi. Si nous n'avons pas de foi, alors notre vie ne devient qu'une sorte de chose sans structure, qui ne mène nulle part, qui n'est construite sur rien et qui ne flotte qu'au gré des opportunités, comme un papillon qui volette de fleur en fleur avant de disparaître, je dirais, dans la grande indifférence générale. Si nous n'avons pas de foi, alors notre vie n'est comme un brin de paille agité par les vagues sur l'océan. Mais la foi, justement, c'est ce qui tend une existence dans une direction, vers un but. C'est ce qui construit notre vie comme quelque chose de cohérent sur un système dans lequel nous voulons croire. Et l'espérance, qui est difficile de différencier de la foi dans la Bible, mais l'espérance, je dirais que c'est ce sur quoi je compte, ce en quoi je mets ma confiance. L'espérance, c'est ce que je considère dans ma vie comme essentiel et ce sur quoi je compte. Et moi, mon espérance, c'est de dire mon espérance, elle n'est pas ni dans ma jeunesse, qui est déjà bien passée, ni dans ma richesse, ni dans mes biens, ni dans mon pouvoir. Mais mon espérance, elle est en Dieu. Et mon espérance, elle est dans la valeur humaine. Mon espérance, elle est dans la relation, c'est-à-dire, pour dire le mot biblique, dans l'amour. Mon espérance, elle est dans le pardon, dans la grâce, dans le partage. Et donc l'espérance, c'est évidemment ce en quoi je mets ma confiance, c'est le sens que je donne à ma vie. Et quant à l'amour, eh bien vous savez ce que c'est, et là encore, quand on parle de l'amour, on ne parle pas du tout de la passion amoureuse de Roméo pour Juliette. Et le choix de ce texte pour les mariages est un contresens permanent, parce qu'on dit c'est beau, il s'aime, donc on lit 1 Corinthiens 13. Mais l'amour dont il est question n'a rien à voir, enfin, pas nécessairement à voir avec la passion amoureuse qui fait que un jeune homme ou une jeune femme, ou aujourd'hui, on ne sait plus, enfin, en tout cas, deux personnes, se lancent dans le projet, dans le défi insensé de vouloir vivre ensemble pour le restant de leur vie. L'amour, dans la Bible, ce n'est pas un sentiment, c'est une démarche, c'est une attitude vis-à-vis de l'autre. L'amour, c'est de donner. L'amour, c'est de partager. L'amour, c'est de recevoir. L'amour, c'est de regarder l'autre comme un alter ego, comme quelqu'un qui existe et qui est une personne, un sujet en face de moi et avec qui je rentre en relation. Et rentrer en relation, c'est aussi écouter, se mettre à sa place et lui laisser de la place. Et donc l'amour, c'est effectivement, comme le dit l'Évangile, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire non pas l'autre comme un objet de satisfaction, de domination, de pouvoir ou de je ne sais quoi, mais l'autre qui est comme un autre moi-même. Et donc l'amour, c'est quand il y a deux moi qui dialoguent. Ça, c'est l'amour. Et on peut espérer que les jeunes couples y arrivent, mais ce n'est certainement pas le point de départ de la passion amoureuse. C'est ce à quoi il faut tendre, et je crois qu'il faut des années, effectivement, pour grandir dans l'amour. Donc l'amour, l'espérance, la foi, voilà ce qui est essentiel, voilà ce qui est fondamental. Et admettez que ça manque à tant de gens, ça manque à tant de nos contemporains, et ça nous manque aussi à nous-mêmes, parce que nous avons tous aussi à grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et je dirais, le monde lui-même Tous ces gens partout autour de nous, ce monde entier, manquent cruellement de foi, d'espérance et d'amour. Et donc j'ai tendance, je dis au Seigneur, vois Seigneur, ce monde, il a soif, il a faim de foi, d'espérance et d'amour. Et tiens, mais oui, mais je suis exactement comme les disciples, justement, de cette multiplication de pain. Et je dis, vois Seigneur, cette foule qui a faim et soif, qui a faim d'espérance, qui a faim de foi, qui a faim d'amour, faim de paix, faim de pardon, faim de confiance, faim de tout cela. Et donc j'ai tendance, moi aussi, comme les disciples du Seigneur, à dire, Seigneur mon Dieu, fais quelque chose devant ce monde entier qui a soif et qui a faim et qui meurt. Alors effectivement, c'est vrai, oui, ce serait bien que ce monde est un peu plus d'amour, un peu plus de partage, un peu plus de conviction, un peu plus d'espérance. Ce serait bien, et je voudrais le demander à Dieu, mais la réponse du Seigneur, elle est donnée là, dans ce texte, qui finalement, auquel je suis revenu sans m'en rendre compte. Le Seigneur dit, eh bien, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Mais moi, comment pourrais-je donner au monde la foi, l'espérance et l'amour? Comment est-ce que moi qui manque tant de foi, tant d'espérance et tant d'amour, je pourrais donner quelque chose? Moi qui possède si peu de choses, oui c'est vrai, ça semble dérisoire. Comment pourrais-je nourrir le monde entier avec mes 5 pains et mes 2 poissons? Comment pourrais-je changer le monde? Et ça c'est parfois je comprends le sentiment de... je dirais, de découragement des disciples qui disent, mais Seigneur, tu nous demandes de nourrir la foule, mais nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Et moi, je dirais, mais Seigneur, tu veux que j'apporte la paix au monde? Avec quoi? Est-ce que mon action va changer le monde? Et est-ce que je peux donner la foi au monde? Le monde est si grand et il y a tant de choses à faire que ce que j'ai semble bien dérisoire. Alors le Christ dit, ben écoutez, faites toujours. Et là, eh bien là, il y a un miracle. Et finalement, peut-être que je vous ai dit au début que je ne croyais pas au miracle, mais si en fait, je crois très fondamentalement au miracle. Mais il ne faut pas se tromper de miracle. Le miracle, ce n'est pas de croire à Alibaba ou je ne sais quoi. Hein. Le miracle, il est là. C'est que le peu de choses que je fais peut avoir une action infiniment au-delà de ce que j'imagine. Parce que ce ne sont pas toujours, ou rarement même, les grandes choses qui changent le monde. Ce qui change le monde, ce sont parfois des choses insignifiantes, ce sont parfois des actions toutes petites. Et ce ne sont pas les plus grands de ce monde ou les plus grands célèbres qui ont changé le monde. Ce sont souvent des petites gens et qui ont fait des choses petites dans leur coin et qui ont changé le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les scientifiques appellent l'histoire de l'aile de papillon. Vous savez, quand le papillon bat une aile, je ne sais plus où, ça entraîne une tempête sous les tropiques ou je ne sais quoi. Enfin, je ne sais pas, peu importe, mais je pense qu'effectivement, même une action petite peut changer le monde. Alors soit par un effet multiplicateur de l'aile de papillon, et tout à l'heure je vous l'ai dit, même c'est vrai dans les multiplications des pains, certainement que l'exemple peut jouer. Si personne ne donne l'exemple, ou si personne ne commence à partager, à donner et à aimer, qui le fera? Et si ce n'est pas nous qui commençons à le faire, qui le fera? Et donc oui, nous devons commencer parce que même, eh bien voilà, je donne mes 5 pains et mes 2 poissons, ça peut-être donner l'idée à d'autres de le faire aussi, et partage d'huile, que finalement tout le monde le fasse. Ou même, eh bien oui, ça peut aussi être un miracle. C'est que ben moi je donne le peu que j'ai, et ce peu que j'ai, eh bien je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça peut changer le monde, ça peut faire quelque chose. Et donc je crois qu'effectivement, vous voyez, nous avons, nous tous, une très grande mission. Une très grande mission qui est de rayonner, qui est de donner, et qui est de partir sur notre richesse, sur ce que nous avons, sur nos grâces. Et ça de dire, eh bien, ces grâces que nous vivons, ces chances que nous avons, nous devons les partager. Et nous ne sommes pas seuls, mais nous devons, je dirais, donner ce plus important que nous avons pour le partager au monde, pour rayonner. C'est une responsabilité énorme que nous donne le Seigneur. Mais en même temps, je dois dire que c'est un peu angoissant aussi, certainement. La barre est haute, y arriverai-je et saurai-je, moi, donner ce que j'ai? Saurai-je, moi, avoir assez de foi, d'espérance et d'amour? Et aurai-je même 5 pains et 2 poissons? Ce n'est pas évident. Et c'est là où la Bible est belle, parce qu'elle se complète. Et aucun passage, effectivement, ne peut prétendre tout dire. Et c'est là où je suis heureux que dans ces lectures, nous puissions justement trouver ce petit joyau qu'est le psaume 121, qui, lui, ne nous donne aucun devoir, mais qui simplement nous dit que Dieu nous aide, que Dieu nous crée, que Dieu est notre secours, que Dieu nous donne tout par grâce. Et donc, ce n'est pas simplement un Dieu qui est en mission, c'est un Dieu qui vraiment nous aide, nous soutient, nous recrée, nous aime, nous accompagne et nous donne tout. Donc en lui, nous avons tout. Alors, qu'est-ce que nous avons en Dieu et qu'est-ce qu'il nous donne? Alors là, ça dépend un peu comment vous vivez les choses. Si vous êtes un chrétien intellectuel, c'est-à-dire si pour vous Dieu est une réalité philosophique et pas relationnelle, alors on pourrait dire qu'effectivement c'est pas faux et que ce Dieu que nous cherchons, la réflexion, la méditation, le questionnement est quelque chose qui nous aide dans notre vie, qui nous construit et qui nous aide aussi à aller vers l'autre et qui nous aide à savoir l'essentiel pour le partager et pour en vivre. Et donc, oui, certainement, Dieu nous donne son secours, même si Dieu n'est pour nous qu'une chose purement intellectuelle. Et si vous êtes un croyant plus mystique, si vous avez la foi, comme on dit aujourd'hui, ce coup-ci, c'est-à-dire ce sentiment de la présence de Dieu, alors vous pouvez expérimenter qu'effectivement, ce sentiment de la présence de Dieu, cette force que l'on peut trouver dans la prière, est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que la prière elle-même nous nourrit d'espérance, même quand extérieurement le monde nous pousse à désespérer. Et dans la prière, nous pouvons nous nourrir d'amour, même si ceux dont nous pensions qu'ils nous aimaient sur terre nous trahissent ou nous blessent. Eh bien, Dieu nous remplit d'amour, il nous remplit d'espérance, il nous remplit de paix, il nous remplit de joie, de confiance, et il nous remplit de foi dans notre existence. Donc certainement, Dieu est celui qui nous donne, je dirais, infiniment au-delà de tout ce dont nous avons besoin. Et donc, nous pensions n'avoir que 5 pains et 2 poissons, mais ça n'est pas vrai. En Dieu, nous avons un banquet extraordinaire, une multitude de choses, et nous avons largement assez. Et ainsi, nous pouvons donner, et ainsi, nous pouvons partager, parce que je crois que la vie, finalement, n'est rien d'autre que de l'échange, que le fait de recevoir et le fait de donner. La vie n'est rien d'autre que partage, et tout donner, recevoir, partager sont indissociables. On ne peut pas recevoir si l'on ne donne pas, on ne peut pas donner si l'on n'a pas reçu, et on ne peut pas recevoir, recevoir, recevoir sans cesse, ou désirer recevoir sans jamais donner, sinon on explose comme une outre. On ne peut pas vouloir donner, 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 donner si jamais on se ressource, parce qu'on se vide et on se dessèche. Et donc donner, recevoir, partager, ce sont les mots fondamentaux de notre existence. Et toutes ces valeurs, tous ces pains, tous ces poissons, tous ces breuvages que nous rêvons d'avoir et que nous demandons à Dieu, que sont la foi, l'espérance et l'amour, mais aussi la joie, le pardon, la confiance, la paix, la lumière et la vie, toutes ces choses, eh bien, nous sommes invités à les donner au monde, mais nous sommes aussi invités à les trouver dans notre relation à Dieu. Et c'est dans le fait que nous les trouvions, que nous en vivions, que nous pouvons ainsi les donner et les partager pour les autres. Et alors, nous pouvons, nous, vivre et donner et partager la foi, l'espérance, l'amour, la joie, le pardon, la confiance, la paix, la lumière et la vie. Et sans limite, sans fin, sans restriction, tout cela pour toujours et pour l'éternité et en abondance. Amen.